Quand il parvint à se dominer, près d'une heure plus tard, il se trouvait bien loin de la ville. Tout autour de lui s'étiraient de mornes étendues de marais côtiers, traversées seulement par l'étroite route d'Innsmouth, cette ville ancienne et à moitié dépeuplée que les gens d'Arkham, pour une raison inconnue, évitaient si soigneusement. L'appel du nord persistait, mais il lui résista comme il avait résisté au premier magnétisme, et finit par découvrir qu'il pouvait presque équilibrer les deux attractions. Il regagna Arkham d'un pas pesant, commanda un café dans une buvette, se traîna jusqu'à la bibliothèque municipale et feuilleta sans but les magazines les plus frivoles. Il croisa en chemin un groupe d'amis qui lui firent remarquer son étonnant coup de soleil, mais il ne leur parla pas de sa promenade. À 15 heures, il prit son déjeuner dans un restaurant et constata que le magnétisme avait soit reflué, soit diminué de moitié. Et puis il partit tuer le temps dans un petit cinéma bon marché, où il revit en boucle le même film indigent sans y prêter la moindre attention. Vers 21 heures, il laissa ses pas le ramener chez lui, et c'est les jambes flageolantes qu'il s'engouffra dans la vieille maison. Joe Mazurevitch marmottait d'inintelligibles prières, si bien que Gilman se hâta de rejoindre sa mansarde sans même prendre le temps de s'arrêter pour voir si Elwood était là. À peine avait-il allumé la faible ampoule électrique qu'il se figea comme pétrifié, car sur la table trônait quelque chose qui n'avait pas sa place en ce monde, ce qu'un nouveau coup d'œil confirma sans aucun doute possible. Posée sur le côté, puisqu'elle ne pouvait tenir debout, l'attendait la figurine exotique hérissée de pointes qu'il avait, lors de son rêve monstrueux, arrachée à la somptueuse balustrade. Rien ne manquait. La carapace centrale, en forme de tonneau crénelé, les minces bras étoilés, les tubercules de part et d'autre et les excroissances plates à 5 branches qui les prolongeaient légèrement incurvées, tout y était, dans le moindre détail. Sous l'éclairage électrique, le métal prenait une teinte gris irisée veinée de vert, et Gilman remarqua, en dépit de sa stupeur horrifiée, que l'un des tubercules se terminait par une petite arête brisée, à l'endroit où elle était auparavant reliée à la rambarde onirique. Seule sa propension récente à sombrer dans une stupeur abasourdie l'empêcha de hurler. Cette fusion du rêve et de la réalité lui était insoutenable. Encore hébété, il saisit l'objet hérissé et descendit en titubant jusqu'à la loge de Dombrowski, le propriétaire. Les prières larmoyantes du repiqueur superstitieux résonnaient toujours le long des couloirs moisis, mais pour l'heure, Gilman n'en avait cure. Le propriétaire qui était chez lui lui ouvrit aimablement sa porte. Non, il n'avait jamais vu cette chose et ignorait d'où elle pouvait bien sortir, mais sa femme avait mentionné un drôle d'objet métallique trouvé dans l'un des lits pendant qu'elle faisait les chambres ce midi. Peut-être était-ce celui-ci. Dombrowski l'appela et elle s'approcha en se dandinant. Oui, c'était bien ça. Elle l'avait trouvé dans le lit du jeune gentleman du côté du mur. Il lui avait paru très bizarre, mais à vrai dire, la chambre du jeune gentleman était pleine de choses bizarres, des livres, des bibelots, des dessins et des tas de feuilles gribouillées. En tout cas, elle ne pouvait rien lui apprendre là-dessus. L'esprit en ébullition, Gilman reprit donc le chemin de sa mansarde, convaincu qu'il rêvait encore ou bien que ses crises de somnambulisme s'étaient aggravées au point de le pousser à piller des lieux inconnus. Où avait-il bien pu trouver cet objet outrancier ? Il ne se rappelait pas l'avoir vu dans un quelconque musée d'Arkham. Il fallait pourtant bien qu'il sorte de quelque part, en toute logique. L'apparence de cette figurine, alors qu'il était en train de la dérober, s'était imprimée dans son inconscient et avait engendré la vision de cette terrasse fantastique. Il se livrerait demain à une enquête discrète et consulterait peut-être un neurologue. D'ici là, il s'efforcerait de suivre à la trace ses propres déplacements nocturnes. Il saupoudra l'escalier et le palier de sa mansarde d'un peu de farine empruntée au propriétaire, sans lui cacher le moins du monde son intention. En chemin, il s'arrêta devant la porte d'Elwood, mais aucune lumière ne filtrait sous le panneau. Regagnant sa chambre, il déposa la statuette hérissée sur la table et, en proie à l'épuisement physique et mental le plus complet, se jeta sur son lit sans même prendre la peine de se déshabiller. Il crut entendre quelque chose gratter, ou glisser sur le plancher oblique de la soupente condamnée. Mais il était trop fébrile pour s'en inquiéter. La mystérieuse attraction qui le tirait vers le nord était de retour, puissante et envoûtante, bien qu'elle lui semble désormais provenir d'un point plus bas dans le ciel. Dans l'éblouissante lumière violette du rêve, reparurent la vieille femme et la créature velue au croc pointu, leurs contours plus nets et plus précis que jamais. Cette fois-ci, ils approchèrent si près qu'il put sentir les griffes flétries de la harpie se refermer sur lui. Depuis son lit, on le fit basculer dans le vide de l'espace, et il entendit le grondement rythmique et sentit brièvement la multitude informe des nébuleux abîmes grouiller tout contre lui. Mais cela ne dura qu'un instant, car il se trouvait à présent dans un espace nu, confiné et dépourvu de fenêtres, aux murs bardés de poutres et de solives grossières convergeant vers un faîte juste au-dessus de sa tête et au sol curieusement incliné. Soutenus par des étais, des petits buffets garnis de livres aux âges et aux états de décomposition variés garnissaient le plancher, au centre duquel s'élevait une table et un banc manifestement cloués au parquet. Des petits objets d'origine et de nature inconnue s'alignaient sur les buffets, éclairé par le flamboiement violet. Et Gilman crut voir parmi eux une réplique exacte de la figurine hérissée de pointes qui l'avait si affreusement troublée. Sur sa gauche, le plancher s'abîmait brutalement dans un gouffre noir et triangulaire d'où, après une seconde de crissement, émergea l'infâme petite créature velue au croc jauni et au visage d'homme barbu. Il découvrit alors que la sorcière, les lèvres tordues en un sourire pervers, la grippait toujours et qu'une silhouette inconnue se tenait derrière la table. Un homme grand et mince, à la peau d'un noir absolu, mais au visage dépourvu du moindre trait négroïde. Chauve et parfaitement glabre, il portait une robe informe à l'étoffe noire et lourde. Ses pieds dissimulés par la table et le banc, devait être chaussé car un petit claquement résonnait chaque fois qu'il changeait de position. L'homme ne parlait pas. Ses traits fins et réguliers ne trahissaient pas la moindre expression. Il ne faisait que montrer du doigt le livre de taille prodigieuse ouvert sur la table. Et la sorcière plaqua alors une énorme plume d'oie dans la main de Gilman. Une chape de terreur démentielle recouvrait cette scène, dont le paroxysme fut atteint quand la créature poilue courut se percher sur l'épaule du rêveur, puis dévala son bras gauche pour lui mordre cruellement le poignet, juste sous la manche. Alors même que le sang jaillissait de sa plaie, Gilman perdit connaissance. Quand il s'éveilla le matin du 22, son poignet gauche l'élançait douloureusement, et il constata que sa manche était brune de sang séché. De son rêve, il ne gardait qu'un souvenir confus, dominé toutefois par la vision de l'homme noir dans cet étrange réduit. Les rats avaient dû le mordre pendant son sommeil, lui inspirant le dénouement sanglant de son épouvantable cauchemar. Derrière la porte, il vit que la farine était intacte sur le plancher du couloir, seulement marquée des larges empreintes du rusto qui partageait son étage. Il n'avait donc pas quitté sa chambre. Mais il fallait faire quelque chose contre ces rats. Il en avertirait le propriétaire. Il s'efforça une nouvelle fois d'obstruer le trou creusé dans la plinthe du mur oblique en y fichant un bougeoir dont la taille semblait correspondre. Ses oreilles bourdonnaient horriblement, comme assourdies par l'écho résiduel de quelque effroyable bruit entendu en rêve. Comme il faisait sa toilette et changeait de vêtements, il tenta de se rappeler ce qui avait suivi la scène dans le réduit envahi par la lumière violette, mais rien de précis ne lui venait à l'esprit. Le décor de son cauchemar se référait sans doute à la soupente condamnée du plafond qui avait si violemment frappé son imagination. Mais les impressions plus tardives restaient faibles et brumeuses. Il croyait se souvenir des vagues abîmes crépusculaires et d'autres gouffres plus amples et plus obscurs encore qui s'ouvraient au-delà. Des gouffres où flottaient des formes dans un état d'impermanence constante. Il y avait été traîné par l'agrégat de bulles et le petit polyèdre qui le harcelait sans cesse. Mais, tout comme lui, il s'était transformé en volute de brouillard laiteux, presque indiscernable dans ce vide inférieur aux ténèbres absolues. Il se dirigeait vers quelque chose, un panache plus important qui se condensait parfois en d'indicibles approximations de forme. Et Gilman songea qu'il ne progressait pas en ligne droite, mais suivait plutôt les courbures et les spirales étrangères d'un maelstrom éthéré dont les lois inconnues contredisaient les axiomes physiques et mathématiques de tout référentiel envisageable. Pour finir, il avait entrevu de vastes ombres bondissantes et vibrées au rythme de monstrueuses pulsations à demi-acoustiques et des inflexions grêles d'une flûte invisible, et puis plus rien. Il devait sans doute cette dernière vision, se dit-il, aux pages du Necronomicon dédiées à l'entité nommée Azathoth, qui règne en plein cœur du chaos sur l'espace et le temps depuis son trône noir, entouré de sa cour démente. Une fois le sang nettoyé, la plaie sur son poignet s'avéra peu profonde, et Gilman s'étonna de l'emplacement des deux petits trous de la morsure. Il ne trouva en outre aucune trace de sang sur le dessus de lit, ce qui était d'autant plus curieux que sa peau comme sa manche en avaient été abondamment recouvertes. Avait-il arpenté la pièce en dormant? Dans ce cas, le rat l'avait-il mordu alors qu'il était assis sur une chaise ou figé dans quelque position moins conventionnelle? Il fouilla chaque recoin de sa chambre à la recherche de taches ou de gouttes brunes, mais n'en trouva aucune. Le plus judicieux, songea-t-il, serait de répandre de la farine à l'intérieur de sa chambre autant qu'à l'extérieur, bien que son somnambulisme fût désormais établi. Il savait parfaitement qu'il se relevait la nuit, et la seule chose à faire à présent était d'y mettre fin. Pour cela, il demanderait de l'aide à Frank Elwood. L'étrange attrait de l'espace semblait avoir reflué ce matin-là, mais seulement pour laisser place à une impression nouvelle et plus énigmatique encore. Il éprouvait le besoin trouble et pressant d'échapper à sa situation actuelle, mais sans la moindre idée quant à la méthode à suivre. Comme il s'emparait de la statuette hérissée de pointe, il sentit l'appel du Nord résonner avec un peu plus de force. Mais il fut vite complètement étouffé par ce nouvel élan incompréhensible. Gilman descendit la figurine jusqu'à la chambre d'Elwood, s'armant de courage pour supporter les gémissements du repiqueur qui montait du rez-de-chaussée. Le jeune homme était chez lui, Dieu merci, mais semblait sur le départ. Il ne disposait que d'un peu de temps pour discuter avant le petit déjeuner et le début des cours, si bien que Gilman lui dressa un rapide compte-rendu de ses rêves et de ses récentes frayeurs. Son hôte se montra fort compréhensif et reconnut l'urgence de la situation. Effaré par l'air exténué et les traits tirés de son visiteur, il remarqua aussi cet étrange coup de soleil qui avait déjà attiré l'attention de plusieurs de leurs condisciples au cours de la semaine. Il ne savait pas trop quoi dire, cependant. Il n'avait jamais croisé Gilman en train d'errer la nuit, et il ignorait tout de cette curieuse figurine. Un soir, néanmoins, il avait surpris une conversation entre le Québécois qui logeait sous la chambre de Gilman et Mazurevitch. Il disait redouter la venue prochaine de la nuit de Valpurgis, dans quelques jours seulement, et s'apitoyait sur le sort du pauvre jeune homme condamné. Desrochers, le Québécois en question, avait évoqué des bruits de pas en pleine nuit, chaussés ou pieds nus, ainsi qu'une lumière violette aperçue un soir qu'il était monté, empli de crainte pour surprendre un éventuel rôdeur dans la chambre de l'étudiant. Il n'avait pas osé regarder par le trou de la serrure, avait-il avoué à Mazurevitch, car cette lumière filtrant autour de la porte l'avait terrifié. Il avait également entendu des chuchotis, et au moment de les décrire, sa propre voix s'était réduite en un inaudible murmure. Pour Elwood, il était illusoire de chercher la moindre signification dans les commérages de ces deux indécrottables superstitieux. Cependant, les accès de somnambulisme et les paroles ensommeillées de Gilman ajoutées à l'imminence de cette veille du 1er mai, aux terreurs folkloriques profondément enracinées, avaient probablement aiguillonné leur imagination. Que Gilman parlât en dormant était une évidence, et c'était sans conteste à cause de l'indiscrétion de Desrochers que cette histoire de lumière violette s'était répandue parmi les locataires. Ces esprits simples s'étaient dès lors rapidement convaincus d'avoir assisté eux-mêmes à ce phénomène étrange dont ils n'avaient en réalité qu'entendu parler. Quant à Gilman, mieux valait qu'il évite de dormir seul et vienne s'installer quelque temps chez Elwood. Le jeune homme, s'il ne dormait pas lui-même, se chargerait de le réveiller au premier bruit ou signe d'agitation dans son sommeil. Gilman devrait également au plus vite consulter un spécialiste. D'ici là, il ferait le tour des musées et des savants de la ville pour identifier la figurine qu'il prétendrait avoir trouvée dans une poubelle de la ville. Par ailleurs, il exigerait de Dombrowski qu'il empoisonne définitivement ses rats dans les murs. Ragaillardi par le soutien d'Elwood, Gilman assista au cours ce jour-là. Il était toujours en proie à d'étranges compulsions, mais il parvint sans mal à les surmonter. Profitant d'un creux dans son emploi du temps, il présenta la curieuse statuette à plusieurs professeurs, qui vouèrent tous un intérêt évident à l'objet, sans pour autant parvenir à faire la lumière sur sa nature ou son origine. Le soir venu, il dormit sur un canapé qu'Elwood avait fait monter par le propriétaire dans sa chambre au second, et passa pour la première fois depuis des semaines une nuit délivrée de ses sinistres rêves. Mais il restait fébrile, et les jérémiades du repiqueur lui hérissaient les nerfs. Au cours des jours suivants, Gilman sembla jouir d'une immunité presque complète contre toute manifestation morbide. Elwood lui assura qu'il n'avait à aucun moment fait mine de parler ou de se lever pendant la nuit, et pendant ce temps, le propriétaire mettait de la mort au rat dans tous les recoins du bâtiment. Seule ombre au tableau, le verbiage incessant des étrangers superstitieux ne faisait qu'empirer. Leur imagination s'enfiévrant de plus en plus. Mazurevitch le tannait sans relâche pour qu'il se procure un crucifix, et finit même par lui en imposer un qui, disait-il, avait été béni par le bon père Ivaniki. Desrochers n'était pas en reste, il affirmait avoir entendu des pas prudents dans la chambre désormais vacante au-dessus de la sienne, lors des deux premières nuits d'absence de Gilman. Paul Choinski croyait percevoir des bruits dans les couloirs et l'escalier après minuit, allant même jusqu'à déclarer qu'on avait silencieusement tenté d'ouvrir sa porte, tandis que Madame Dombrowski jurait avoir vu Brown Jenkins pour la première fois depuis la Toussaint. Mais ces témoignages naïfs ne signifiaient pas grand-chose. Aussi, Gilman ne fit-il qu'accrocher le crucifix en métal bon marché à une poignée de commode dans la chambre de son hôte. 3 jours durant, Gilman et Elwood sillonnèrent les musées de la ville dans l'espoir d'identifier l'étonnante statuette bardée de pointes, sans résultat. L'objet ne laissait toutefois personne indifférent, car son absolue étrangeté représentait une passionnante énigme propre à stimuler la curiosité scientifique. On brisa l'un des petits bras en étoile pour le soumettre à une analyse chimique, dont le résultat fait encore aujourd'hui sensation dans les milieux universitaires. Le professeur Ellery parvint à isoler au sein de ce mystérieux alliage des traces de platine, de tellure et de fer, mais s'y ajoutaient au moins 3 autres éléments de masse atomique élevée, qui mettaient en échec toute tentative de classification structurelle. Car non seulement il ne relevait d'aucun élément connu, mais il ne s'insérait en outre dans aucune des cases vacantes du tableau périodique. À ce jour, le mystère reste entier, même si la figurine est exposée au musée de l'université Miskatonique. Le matin du 27 avril, un nouveau trou de souris fit son apparition dans la chambre qu'occupait provisoirement Gilman. Mais Dombrowski le reboucha le jour même. La mort au rat n'avait guère eu d'effet, car les grattements et les cavalcades derrière les cloisons étaient presque aussi fréquents qu'auparavant. Ce soir-là, Elwood était de sortie, et Gilman attendait son retour. Il ne souhaitait pas s'endormir seul, d'autant plus qu'il avait cru apercevoir, à la faveur du crépuscule, cette ignoble vieille femme dont l'image avait si abominablement envahi ses rêves. Il se demanda qui elle pouvait bien être, et quelle avait été cette chose à ses côtés qui s'était acharnée sur une boîte de conserve dans le tas d'ordures à l'entrée d'une cour sordide. La harpie avait semblé remarquer Gilman, et l'avait lorgné d'un œil mauvais, à moins que son imagination lui ait joué des tours. Le lendemain, les jeunes gens, tous deux très fatigués, savaient qu'ils ne feraient pas long feu après la nuit tombée. Dans la soirée, ils discutèrent d'une voix somnolente des théories mathématiques qui avaient si complètement et peut-être même dangereusement passionné Gilman, et débattirent des liens improbables, obscurs et mystérieux, qui les unissait à la magie primitive et au folklore. Ils évoquèrent ensuite la vieille Kezia Masson, et Elwood dut reconnaître la validité scientifique de l'hypothèse de Gilman. Il était envisageable, en effet, que cette femme ait acquis par quelque hasard des notions étranges d'une importance prodigieuse. Les cultes clandestins auxquels appartenaient ces sorcières détenaient et perpétuaient souvent des arcanes surprenants issus d'éons lointains et oubliés. Il n'était dès lors pas impossible que Kezia ait réellement maîtrisé l'art du transfert dimensionnel. La tradition n'insistait-elle pas sur l'inanité des obstacles matériels pour retenir une sorcière? Et quel pouvait être le véritable sens de ces chevauchées nocturnes à dos de balai, des contes d'antan? Qu'un étudiant des temps modernes pût acquérir de semblables pouvoirs par le biais des seules mathématiques, cela restait à prouver. Une telle découverte, ajouta Gilman, pourrait entraîner de bien funestes et dangereuses conséquences. Car comment savoir ce qui pouvait proliférer dans les environnements de dimensions adjacentes, mais normalement inaccessibles? D'un autre côté, les perspectives que cela aurait pourraient s'avérer grandioses. L'espace abritait peut-être certaines zones où le temps n'existait pas. Des zones qu'il suffirait de pénétrer et d'habiter pour préserver sa vie et son âge indéfiniment, sans avoir à subir les dégradations du métabolisme organique, ou alors par petites touches seulement lors de visites dans son plan d'origine ou d'autres aux propriétés similaires. On pourrait, par exemple, passer dans une dimension atemporelle et en ressurgir bien plus tard, à quelque époque lointaine de l'histoire terrestre, aussi jeune qu'auparavant. Quant à savoir si quelqu'un y était déjà parvenu, on ne pouvait qu'émettre des hypothèses sans véritable fondement. Les vieilles légendes sont floues et ambiguës et, dans l'ancien temps, toute tentative visant à franchir ces vides interdits semblait compliquée par le besoin d'établir d'étranges et terribles alliances avec des êtres et des messagers venus d'ailleurs. En témoignait l'immémorial archétype du héros ou de l'émissaire des puissances des ténèbres, l'homme noir du culte des sorciers et le Nyarlathotep du Necronomicon, ou bien celui plus déconcertant encore des entremetteurs ou des intermédiaires inférieurs, ces quasi-animaux et ces monstrueux hybrides que les légendes décrivent comme les familiers des sorcières. Au moment où Gilman et Elwood, trop épuisés pour poursuivre leur discussion, allaient se coucher, Joe Mazurevitch rentra dans la maison en titubant à moitié ivre, et la ferveur désespérée de ses prières leur arracha un frisson. Cette nuit-là marqua le retour de la lumière violette. Dans son rêve, Gilman avait entendu des grattements et des grignotements à l'intérieur des cloisons, et même imaginé qu'on tentait maladroitement d'ouvrir le loquet de la porte. C'est alors qu'il vit la vieille femme et la petite créature poilue fouler le tapis jusqu'à lui. Le visage de cette vipère rayonnait d'une inhumaine exultation, tandis que l'avorton ricanait de tous ses crocs jaunis en désignant la masse inerte d'Elwood, profondément endormie sur sa couche à l'autre bout de la chambre. Tétanisé par la peur, Gilman ne parvint même pas à crier. Comme la dernière fois, l'ignoble sorcière le saisit par les épaules et le fit basculer hors du lit dans le vide de l'espace. À nouveau, il chuta à travers le tourbillon infini et hurlant des abîmes. Mais presque immédiatement, il se vit debout dans une ruelle sombre, boueuse et inconnue, baigné d'exhalaisons fétides et cerné de toutes parts par les murs lépreux d'anciennes maisons branlantes. À quelque distance de lui se tenait l'homme noir, vêtu de la même robe que dans les rêves du grenier pointu. Plus proche de Gilman, la vieille femme lui faisait signe de s'avancer vers eux, les lèvres retroussées sur une grimace impérieuse. Brown Jenkins se frottait, affectueux et enjoué, aux chevilles de l'homme noir qui s'enfonçait profondément dans la boue. En silence, l'inconnu pointait du doigt une entrée ténébreuse sur la droite. La harpie grimaçante s'y enfonça, entraînant Gilman par sa manche de pyjama. Ils grimpèrent un escalier à l'odeur méphitique dans un concert de craquements sinistres, éclairé par la lumière violente qui semblait irradier de la sorcière elle-même, jusqu'à l'entrée d'un palier. La vieille tripota le loquet, ouvrit la porte et, faisant signe à Gilman d'attendre, s'engouffra dans les ténèbres. Louis, hypersensible du jeune homme, capta un atroce cri étranglé. Puis la harpie reparut, portant une petite forme sans connaissance qu'elle jeta presque dans les bras du rêveur, comme pour lui ordonner de la porter. La vue de cette forme et l'expression de son visage rompirent le sortilège. Encore trop sonné pour hurler, Gilman dévala précipitamment l'escalier pestilentiel et surgit dans la ruelle boueuse. Mais l'homme noir qui l'y attendait le saisit au cou et lui comprima la gorge. La dernière chose que le jeune homme entendit avant de s'évanouir fut le ricanement aigu et lointain du rat monstrueux au croc acéré. Le matin du 29 au réveil, Gilman plongea dans un maelstrom d'horreur. À peine ouvrit-il les yeux qu'il comprit la gravité de sa situation. Car il était de retour dans sa vieille mansarde au plafond et au mur oblique étendu sur le lit désormais défait. Il avait inexplicablement mal à la gorge, et en se redressant, il constata dans une bouffée d'épouvante que son pantalon de pyjama et ses pieds étaient maculés de boue séchée. Pour l'heure, ses souvenirs restaient désespérément flous, mais tout indiquait une nouvelle crise de somnambulisme. Elwood, trop profondément endormi, n'avait manifestement pas pu l'entendre ni le retenir. Le parquet était couvert d'une multitude d'empreintes boueuses qui, curieusement, n'allaient pas jusqu'à la porte. Et plus Gilman observait ces empreintes, plus elles lui paraissaient incongrues. Car en plus des siennes, il en trouva des plus petites, presque rondes, telles que pourraient en laisser les pieds d'une grosse chaise ou bien d'une table, sauf que la plupart présentaient une fente étrange les coupant en deux moitiés. Il remarqua également un nouveau trou dans le mur, d'où sortait et revenait une traînée d'empreintes laissées par un petit animal. Mais par-dessus tout, ce fut l'absence de traces boueuses dans le couloir et sur le seuil qui stupéfia Gilman et lui fit craindre la folie. Plus il se rappelait cet abominable rêve, plus il tremblait d'effroi, et les litanies plaintives de Joe Mazurevitch deux étages plus bas ajoutaient à son désespoir. Il descendit chez Elwood, secoua doucement son hôte pour l'éveiller, puis lui raconta les incidents de la nuit. Son ami, sidéré, n'avait aucune explication à lui proposer. Où Gilman avait-il bien pu se rendre? Comment avait-il regagné sa chambre sans laisser de traces dans les parties communes? Et par quel miracle, ces étranges empreintes rondes s'étaient-elles mêlées aux siennes dans sa mansarde? Toutes ces questions dépassaient l'entendement. Et puis il y avait ces marbrures sombres et livides sur sa gorge, comme s'il s'était étranglé lui-même. Pourtant, quand il tenta de reproduire ce geste, les jeunes gens remarquèrent que ses mains ne correspondaient pas du tout aux marques laissées sur son cou. Alors qu'ils discutaient, Desrochers passa les prévenir qu'il y avait eu un formidable fracas dans les combles aux petites heures de la nuit. Non, il n'avait entendu personne monter l'escalier après minuit, mais un tout petit peu avant, il avait cru distinguer des pas feutrés dans la mansarde, puis dans l'escalier, des pas furtifs qui lui avaient déplu. Arkham, ajouta-t-il, vivait des heures bien sombres à cette époque de l'année. Le jeune gentleman avait tout intérêt à porter le crucifix offert par Joe Mazurevitch. Même les journées n'étaient pas sûres, car la maison avait résonné de bruits étranges après l'aube, et tout particulièrement d'une voix ténue d'enfant en larmes vite étouffées. Gilman assista machinalement au cours de la matinée, mais s'avéra incapable de se concentrer sur ses études. Un pressentiment atroce l'avait envahi, à tel point qu'il semblait vivre dans l'attente d'un funeste coup de grâce pouvant survenir à tout moment. À midi, il déjeuna au foyer universitaire et ramassa un journal sur le siège voisin, le temps qu'on lui serve son dessert. Mais la manchette en première page lui coupa l'appétit. Soudain exténué, les yeux hagards, il fut à peine capable de régler l'addition et de regagner en titubant la chambre d'Elwood. Le journal rapportait l'étrange enlèvement qui avait eu lieu la veille dans l'allée Horn. Âgé de 2 ans, le fils d'une blanchisseuse rustaude nommée Anastasia Vojeshko avait purement et simplement disparu. La mère, semblait-il, vivait depuis quelque temps dans la crainte d'un tel malheur. Mais les raisons qu'elle invoquait pour expliquer son appréhension étaient si grotesques que personne ne les avait prises au sérieux. Elle disait avoir vu Brown Jenkins rôder souvent autour de chez elle depuis le début du mois de mars, et avait déduit des grimaces et des ricanements de l'affreuse créature que le petit Ladislas avait été choisi pour le sacrifice de cet épouvantable sabbat de la nuit de Valpurgis. Elle avait même demandé à sa voisine, Marie Sajnek, de dormir dans la chambre pour protéger l'enfant. Mais Marie avait eu trop peur. Anastasia n'avait pas prévenu la police qui ne croyait jamais ce genre d'histoire. Pourtant, des enfants disparaissaient ainsi chaque année d'aussi loin qu'elles s'en souviennent. Quant à son ami Pet Stovaki, il ne l'aiderait pas puisqu'il voulait de toute façon se débarrasser du petit. Mais c'est un autre témoignage qui lui donna des sueurs froides. Deux fêtards étaient passés près de l'entrée de la ruelle peu après minuit. S'ils admettaient sans mal leur ivresse, ils juraient tous deux avoir vu un trio aux vêtements saugrenus se couler dans l'allée. Il y avait, disait-il, un noir colossal vêtu d'une robe, une vieille femme chétive en haillons et un jeune blanc en pyjama. La vieille tirait le jeune homme derrière elle, tandis qu'un rat apprivoisé se frottait aux pieds du noir en se faufilant dans la boue brune. Gilman, hébété, passa l'après-midi prostré. Et c'est ainsi qu'Elwood, qui entre-temps avait lu lui aussi les gros titres de la presse et en avait aussitôt déduit de sinistres hypothèses, le trouva à son retour. Cette fois-ci, il ne pouvait nier qu'une terrible menace s'apprêtait à les engloutir. Un lien monstrueux, impensable, s'était formé entre les fantasmes du cauchemar et les réalités du monde matériel. Et seule une vigilance de chaque instant pourrait en empêcher les plus fâcheuses répercussions. Gilman devait tôt ou tard consulter un spécialiste, mais pas maintenant, quand tous les journaux claironnaient cette histoire d'enlèvement. La vérité se voilait de ténèbres affolantes que les deux étudiants s'efforcèrent de percer à mesure que la journée avançait en formulant à voix basse d'inconcevables théories. Gilman avait-il abouti dans ses recherches sans le savoir et triomphé des barrières de l'espace et des dimensions? S'était-il glissé hors de notre monde pour gagner des plans d'existence insoupçonnés et inimaginables? Ou, si ce terme avait encore un sens, avait-il disparu lors de ses équipées nocturnes et démoniaques aux confins de la réalité? Le crépuscule hurlant des abîmes, le versant de collines verdâtres, la terrasse brûlante, l'appel des étoiles, le nébuleux vortex, l'homme noir, l'allée boueuse et l'escalier, la vieille sorcière et son monstre poilu au croc jaune, l'agrégat de bulles et le petit polyèdre, l'étrange coup de soleil, la blessure au poignet, l'inexplicable figurine, les empreintes boueuses, les échymoses sur le cou, les contes et les terreurs naïves de tous ces étrangers. Que signifiait tout cela? Jusqu'à quel point les lois de la raison pouvaient-elle être appliquée à une telle affaire? Ni l'un ni l'autre ne purent trouver le sommeil cette nuit-là, si bien qu'ils manquèrent les cours du lendemain et passèrent la matinée à sommeiller. C'était le 30 avril, et au crépuscule débuterait cet infernal sabbat qui peuplait les cauchemars des étrangers et des vieillards superstitieux. Mazurevitch rentra à 18 heures et répéta les rumeurs chuchotées à la fabrique, selon lesquelles les célébrations de Valpurgis devait se tenir dans le ravin obscur derrière Meadow Hill, là où l'antique pierre blanche domine un terrain étrangement vierge de toute végétation. Certains des ouvriers avaient même conseillé à la police d'aller y chercher le petit Voleshko disparu, mais sans vraiment croire qu'on prêterait foi à leurs insinuations. Le jeune gentleman, insista Joe, devait absolument porter son crucifix à la chaîne en nickel, si bien que Gilman le passa à son cou et le glissa sous sa chemise pour apaiser le Polonais. Le soir venu, les deux jeunes gens somnolaient tranquillement dans leur fauteuil, bercés par les lentes litanies du repiqueur au rez-de-chaussée. Gilman, tout en dodelinant de la tête, tendait l'oreille, son ouïe prodigieusement aiguisée à l'affût du subtil et redoutable murmure tapis derrière les murs de l'ancienne maison. Des bribes malsaines du Necronomicon et du Livre Noir remontaient des profondeurs de sa mémoire. Et il se surprit à tanguer au rythme indicible qu'on disait réservé aux plus noires cérémonies du sabbat. et qui puisait son origine par-delà les humaines contingences de l'espace et du temps. Il ne tarda pas à comprendre ce qu'il guettait ainsi. C'était la mélopée chtonienne des officiants de la lointaine vallée noire. Mais comment pouvait-il en savoir autant sur ce qu'attendaient ses fidèles? Comment savait-il à quel moment Naba et son acolyte devaient apporter la coupe débordante et ce qui viendrait après les sacrements du coq et du bouc noir? Remarquant qu'Elwood s'était endormi, il voulut l'appeler pour le réveiller. Mais quelque chose lui nouait la gorge. Il n'était plus maître de lui-même. Avait-il à poser sa signature dans le livre de l'homme noir en fin de compte? C'est alors que son ouïe fiévreuse et anormale capta des notes distantes portées par le vent. Parcourant d'innombrables distances à travers collines, champs et ruelles, elles parvenaient jusqu'à lui, et pourtant il n'eut aucun mal à les reconnaître. Là-bas, on attisait les brasiers. Là-bas, les danseurs entamaient leurs pirouettes. Comment pourrait-il s'empêcher de les rejoindre? Dans quelle nasse s'était-il empêtré? Les mathématiques, le folklore, la bâtisse, la vieille Kezia, Brown Jenkins. Au même instant, il remarqua un nouveau trou de souris dans le mur, près de son lit. Par-dessus la mélopée lointaine et les prières plus proches de Mazurevitch, s'éleva soudain un autre son, un grattement précis et déterminé derrière les cloisons. Il frémit à l'idée que les ampoules électriques puissent s'éteindre, puis il vit, émergeant du trou, le petit visage barbu au croc acéré. Ce maudit petit visage qui, il s'en rendait compte désormais, ressemblait si sournoisement, si affreusement, à celui de la vieille Kezia. Et il entendit une main chercher le loquet de sa porte. Le crépuscule hurlant des abîmes l'engouffra, et il se sentit emporté impuissant dans l'étreinte amorphe de l'agrégat de bulles irisées. Au-devant filait le petit polyèdre kaléidoscopique, vibrillonnant dans le tourbillon du gouffre, où grondaient à présent des modulations tonales rugissantes, dont l'accélération préfigurait quelque ineffable et intolérable éruption. D'une certaine manière, il savait ce qui approchait. La monstrueuse déflagration rythmique de l'hymne de Valpurgis, concentrant au sein de ses polyphonies cosmiques le bouillonnement primordial et ultime de l'espace-temps, dont les effusions sont à l'origine de la matière accumulée des sphères et produisent parfois des échos assourdis qui pénètrent chaque palier successif de l'existence et confèrent à certaines dates d'ignobles significations dans l'infinité des mondes. Mais tout cela s'évanouit en un éclair et se retrouva à nouveau dans l'étroit réduit pointu baigné de lumière violette, avec son plancher en pente, ses casiers de livres anciens, son banc, sa table, ses objets étranges et son puits triangulaire sur le côté. Sur la table gisait un petit corps blanc, celui d'un enfant nu et inconscient que surplombait l'abominable vieille femme aux yeux de braise. Elle tenait dans sa main droite un poignard étincelant aux manches grotesques et dans la gauche une coupe de métal pâle aux proportions curieuses, ciselée d'étranges motifs et dotée de deux fines anses latérales. D'une voix rauque, elle psalmodiait un rituel dans une langue inconnue du jeune homme qui lui évoqua toutefois une citation du Necronomicon. À mesure que la scène se précisait, il vit la vieille harpie se pencher en avant et lui tendre la coupe vide par-dessus la table. Incapable de contrôler ses mouvements, il se pencha à son tour et saisit à deux mains le calice, dont il put constater la relative légèreté. Au même moment, la répugnante forme de Brown Jenkins gravit sur sa gauche le rebord du gouffre noir et triangulaire. D'un geste, la sorcière intima ensuite au jeune homme de tenir la coupe dans une certaine position, tandis qu'elle levait le poignard énorme au grotesque contour aussi haut que possible au-dessus de sa petite victime au teint laiteux. La créature velue au croc jauni entonna d'une voix ricanante la suite du mystérieux rituel, auquel la sorcière répondit par d'ignobles croassements. Gilman sentit une horreur glacée, aiguë et déchirante, lui fouailler l'esprit malgré le contrôle émotionnel et mental auquel on le soumettait, et la légère coupe de métal trembla dans ses mains. À peine la sorcière avait-elle esquissé le geste d'abattre son arme que le sortilège qui maintenait le jeune homme se dissipa. Il lâcha la coupe qui tinta bruyamment contre le sol et se jeta sur la sorcière pour l'empêcher de commettre son épouvantable forfait. En moins d'une seconde, il avait contourné la table sur le sol en pente et arraché le poignard des griffes de la vieille vipère, l'envoyant valser jusqu'au bord de l'étroite fosse triangulaire. La seconde suivante, cependant, la situation se renversa, car ses griffes monstrueuses se refermèrent sur sa gorge et serrèrent de toute leur force, tandis que ce visage flétri se tordait de fureur démentielle. Il sentit la chaîne de son crucifix bon marché lui rentrer dans le cou, et dans son désespoir songea brusquement à l'effet que pourrait avoir cet objet sur sa maléfique assaillante. La sorcière faisait preuve d'une puissance surhumaine et lui comprimait cruellement la trachée, mais il parvint malgré tout à plonger faiblement la main sous sa chemise, à s'emparer du petit emblème métallique et à en briser la chaîne d'un coup sec. À la vue du crucifix, la sorcière sembla prise de panique et relâcha suffisamment son étreinte pour permettre à Gilman de se libérer. Il repoussa loin de sa gorge les griffes d'acier et s'apprêta à traîner la harpie jusque dans la fosse quand celle-ci reprit le dessus et lui en serra de nouveau le cou. Cette fois-ci, il décida de lui rendre l'appareil et tendit ses mains à l'assaut du visage de la créature. Avant qu'elle puisse comprendre ce qu'il avait en tête, il lui avait passé la chaîne du crucifix autour du cou et la serrait suffisamment fort pour lui couper le souffle. Pendant qu'elle étouffait en proie à l'agonie, il sentit une morsure à la cheville et comprit que Brown Jenkins venait prêter main forte à sa maîtresse. D'un puissant coup de pied, il envoya valser l'homoncule dans le gouffre obscur et l'entendit couiner de douleur là où il avait atterri, quelques étages plus bas. Il ignorait s'il avait tué la vieille sorcière ou non, mais il abandonna son corps où il était tombé. Quand il se retourna, il fut témoin d'un spectacle qui manqua de faire céder les dernières digues de sa santé mentale. Brown Jenkins, armé de ses crocs et de ses quatre petites mains à la dextérité démoniaque, n'avait pas chômé pendant que sa maîtresse se battait. Les efforts de Gilman n'avaient servi à rien. Car s'il avait empêché le couteau de s'enfoncer dans la poitrine de l'enfant, les crocs jaunis de l'ignoble familier avaient entre-temps cruellement lacéré l'un des poignets de la petite victime, et la coupe qu'il avait lui-même lâchée par terre était désormais pleine, posée près du petit corps sans vie. Dans son rêve délirant, Gilman perçut alors au loin l'hymne infernal du sabbat à la cadence sans pareille, et il comprit que l'homme noir avait dû faire son apparition. Des souvenirs confus se mêlèrent bientôt à ses théorèmes mathématiques, et le jeune homme songea que son inconscient devait connaître les angles qui lui permettraient de regagner son monde, seul et par ses propres moyens, pour la toute première fois. Il était persuadé qu'il se trouvait dans la soupente immémoriale qui coiffait sa chambre, mais il doutait fort de pouvoir s'évader par le plancher en pente ou l'ancienne trappe autrefois condamnée. Par ailleurs, s'échapper d'un grenier chimérique, ne le mènerait-il pas dans une maison tout aussi chimérique? Une projection anormale du lieu véritable qu'il visait à retrouver? Les liens intimes qu'avaient noué le rêve et la réalité lors de ses récentes expériences ne cessaient de le stupéfier. La plongée à travers les nébuleux abîmes serait effroyable, car l'hymne de Valpurgis y résonnerait à coup sûr, et il lui faudrait s'immerger dans cette pulsation cosmique jusqu'alors voilée qui l'emplissait d'une terreur sans nom. Déjà, il lui semblait discerner une vibration sourde et monstrueuse dont il ne soupçonnait que trop la cadence. À l'approche du sabbat, l'hymne gagnait en intensité et se répandait à travers les mondes pour exhorter les initiés à officier leurs innommables rituels. La moitié des mélopées de la messe noire reproduisait cette lointaine pulsation étouffée qu'aucune oreille humaine ne saurait supporter en entier, dans toute sa glorieuse nudité spatiale. Gilman se demandait également s'il pouvait se fier à son instinct pour le ramener dans le bon secteur de l'espace. Comment savoir s'il ne risquait pas d'atterrir sur ce versant de collines olivâtres d'une planète reculée, sur les dalles de cette terrasse surplombant la cité des monstres à tentacules par-delà les frontières de la galaxie, ou même encore dans les noires spirales du chaos primordial? Ce tourbillon du vide régi par Azathoth l'insensé, le sultan démoniaque. Il était sur le point de se jeter dans l'abîme quand la lumière violette disparut. le plongeant dans les ténèbres. Sans doute cela signifiait-il que la sorcière, la vieille Kézia ou Nahab, quel que fût son nom, était enfin morte. Et aux litanies lointaines du sabbat, comme aux gémissements de Brown Jenkins au fond du gouffre, vint bientôt s'ajouter une nouvelle plainte plus sauvage encore, qui jaillissait de profondeurs inconnues. Joe Mazurevitch, ses prières contre le chaos rampant culminant à présent en un inexplicable hurlement de triomphe, des sphères d'objectivité sardonique à l'assaut des tourbillons du rêve enfiévré, « Ya, Stubnigorat, le bouc aux mille chevreaux !» Ce fut bien avant l'aube qu'on retrouva Gilman sur le plancher de sa vieille mansarde aux angles étranges, car son terrible cri avait immédiatement alerté Desrochers, Choïnski, Dombrowski et Mazurevitch, et même réveillé Elwood qui dormait à poing fermé dans son fauteuil. Le jeune homme était en vie, les yeux grands ouverts, le regard fixe, mais semblait tomber en catalepsie. Des empreintes de mains meurtrières bleuissaient sa gorge, et du sang suppurait d'une inquiétante morsure de rat à sa cheville gauche. Ses vêtements étaient dans un état lamentable, et le crucifix de Joe avait disparu. Elwood fut saisi de tremblement, craignant même d'imaginer quelle nouvelle orientation avait pu prendre le somnambulisme de son ami. Mazurevitch, l'air hébété, balbutia quelque chose au sujet d'une étrange réponse à ses prières, avant de se signer frénétiquement en entendant couiner et gémir un rat derrière la cloison oblique. Une fois le rêveur installé sur son lit dans la chambre d'Elwood, on fit chercher le docteur Malkowski, un généraliste du quartier qui savait tenir sa langue, et celui-ci administra au jeune homme deux piqûres qui dénouèrent ses muscles contractés et le plongèrent dans un état proche de la somnolence naturelle. À plusieurs reprises pendant la journée, Gilman s'éveilla et chuchota à Elwood le compte-rendu décousu de son dernier rêve. L'effort s'avéra fort pénible et révéla dès l'abord un nouveau fait troublant. Gilman, dont l'acuité auditive s'était avérée anormalement sensible ces derniers temps, était désormais parfaitement sourd. Le docteur Malkowski, qu'on rappela en urgence, expliqua à Elwood que les deux tympans avaient été perforés comme sous l'impact d'un son démesuré dont l'intensité dépassait tant le seuil de tolérance que l'entendement humain. Comment un tel vacarme avait pu être entendu au cours des dernières heures sans réveiller toute la vallée de la Miskatonique? Le brave médecin n'aurait su le dire. Elwood se mit à écrire sur un carnet afin de poursuivre sa discussion avec Gilman. Ni l'un ni l'autre ne sachant quoi penser de cette sinistre affaire, ils convinrent que mieux valait y songer le moins possible. Tous deux cependant admirent qu'il leur fallait quitter au plus vite cette maison maudite. Les journaux du soir mentionnèrent une descente de police au milieu d'un attroupement de noceurs dans un ravin par-delà Meadow Hill, juste avant l'aube, et soulignèrent l'importance dans le folklore régional de la pierre blanche qui s'y dressait. Les agents n'avaient fait aucun prisonnier, mais avaient aperçu dans la horde en fuite un noir immense. Une autre rubrique affirmait qu'on restait sans nouvelles de Ladislas Voleshko, l'enfant disparu. Ce fut cependant la nuit suivante que survint l'horreur suprême. Elwood ne l'oublierait jamais, et la dépression nerveuse dans laquelle il plongea par la suite l'empêcha de finir son trimestre à l'université. Il avait cru entendre des rats dans les cloisons toute la soirée, mais ne s'en était pas inquiété. Ce fut seulement bien plus tard, longtemps après que Gilman et lui se furent couchés, que retentirent les abominables hurlements. Elwood se releva d'un bond, alluma la lumière et se précipita au chevet de son invité. Celui-ci produisait des sons parfaitement inhumains, comme assailli d'indescriptibles tourments. Il se tordait sous les draps et une large tache rouge se mit à colorer les couvertures. Elwood osa à peine le toucher, mais peu à peu les cris et les spasmes s'atténuèrent. Entre-temps, Dombrowski, Choïnski, Desrochers, Mazurevitch et le locataire du dernier étage s'étaient attroupés sur le seuil de la chambre, et le propriétaire envoya son épouse au rez-de-chaussée pour téléphoner au docteur Malkowski. Tous glapirent d'horreur quand ce qui semblait être un gros rat jaillit soudain de sous les draps ensanglantés, pour se réfugier dans un trou récemment creusé dans la cloison la plus proche. Quand le médecin arriva enfin et souleva ses effroyables couvertures, Walter Gilman était mort. Il serait barbare de faire plus que suggérer ce qui avait tué le jeune homme. On avait foré un véritable tunnel dans son corps, et quelque chose avait dévoré son cœur. Dombrowski, effaré par l'échec de ses tentatives de dératisation, suspendit sur le champ tous les baux en cours et, moins d'une semaine plus tard, emménagea avec ses plus fidèles locataires dans une maison sordide, mais plus récente, de Walnut Street. Le plus dur fut d'apaiser Joe Mazurevitch, car le repiqueur noyait ses peurs dans la boisson, remâchant et gémissant sans cesse des histoires de fantômes et de monstres à dormir debout. Apparemment, lors de cette nuit fatidique, Joe s'était penché pour examiner les petites empreintes écarlates qui partaient du lit de Gilman pour regagner le trou voisin. Difficile à distinguer sur le tapis, elles apparaissaient nettement sur une intersection de parquet à nu entre le bord du tissu et la plinthe. Ce fut ainsi que Mazurevitch découvrit quelque chose de tout à fait monstrueux, du moins le pensait-il, car personne ne voulut confirmer ses dires malgré l'étrangeté indéniable de ses marques. Ses traces, avait-il remarqué, n'avaient certainement rien de commun avec celles d'un rat. Pourtant, même Choinski et Desrochers avaient refusé d'admettre qu'elles ressemblaient en tout point aux empreintes de quatre minuscules mains humaines. La maison ne fut plus jamais occupée. À peine Dombrowski l'eut-il désertée qu'elle se para du suaire de sa déréliction terminale, car, en sus de sa sinistre réputation, les gens l'évitaient désormais pour l'odeur répugnante qu'elle répandait alentour. Peut-être la mort au rat de l'ancien propriétaire avait-elle fini par agir, car peu après son départ, l'endroit se mit à empester tout le voisinage. Des agents de l'administration sanitaire remontèrent ces effluves malsains jusqu'à leur source et découvrirent qu'ils provenaient des espaces condamnés entourant la mansarde située à l'est. Après avoir conclu qu'un grand nombre de cadavres de rats devaient s'y décomposer, ils estimèrent que déceler et désinfecter ces interstices constituerait une perte de temps. La pestilence ne tarderait pas à se dissiper, et l'on s'embarrassait peu des questions sanitaires dans le quartier. D'ailleurs, de nombreuses rumeurs locales faisaient état d'émanations mystérieuses venant des étages de la maison de la sorcière, lors des semaines suivant la veille du 1er mai et la Toussaint. De mauvaise grâce, les voisins se plièrent à l'inertie des pouvoirs publics, mais cette puanteur n'en devint pas moins un grief supplémentaire contre la maison. Pour finir, un inspecteur en bâtiment la déclara impropre à l'habitation. Les rêves de Gilman et les événements associés restent inexpliqués. Elwood, qui finit par nourrir d'affolantes théories au sujet de cette épouvantable affaire, reprit le cours de ses études à Miskatonic l'automne suivant et obtint son diplôme en juin. Arkham lui parut moins saturé de rumeurs spectrales, tant il était vrai qu'en dehors d'un ricanement fantomatique qui hanta la maison déserte jusqu'à sa démolition, on ne déplora aucune nouvelle apparition de la vieille Kezia ou de Brown Jenkins après la mort de Gilman. Par chance, Elwood ne se trouvait pas en ville lorsque, bien plus tard, certains événements firent ressurgir au grand jour les horreurs du passé. Il ne tardait guère à en entendre parler, bien entendu, et en conclut de troublantes et douloureuses hypothèses. Toutefois, son éloignement lui épargna d'être aussi traumatisé que s'il avait assisté des visu à ces terribles découvertes. En mars 1931, une tempête fit s'effondrer le toit et la grande cheminée de la maison de la sorcière abandonnée, de sorte qu'une pluie de briques disjointes, de bardeaux noircis et moussus, de planches et de poutres pourries s'abattit dans le grenier et éventra le plancher. Les combles disparurent entièrement sous un enchevêtrement de gravats, et personne ne prit la peine de les dégager avant l'inévitable démolition de la bâtisse délabrée. Cette dernière étape eut lieu en décembre de la même année, et ce fut le déblaiement de l'ancienne chambre de Gilman par une équipe d'ouvriers réticents et inquiets qui fit naître les rumeurs. Parmi les éboulis qui avaient défoncé l'ancien plafond oblique, les ouvriers firent certaines découvertes qui les poussèrent à alerter la police. Celle-ci, à son tour, convoqua le coroner et plusieurs professeurs de l'université. On avait trouvé des os, broyés ou fêlés pour la plupart, mais indéniablement humains, dont le caractère manifestement récent entrait en totale contradiction avec la date reculée où leur seule cachette, à savoir la soupente basse ou parquet en pente, était censé avoir été condamné. Le médecin légiste leur attribua deux origines distinctes. Certains os appartenaient à un petit enfant, et d'autres, à moitié fusionnés avec des lambeaux pourris de tissu brunâtre, à une femme voûtée, de taille légèrement inférieure à la moyenne, et d'un âge avancé. Un examen minutieux des décombres permit également d'exhumer de nombreux squelettes de rats écrasés dans l'effondrement, ainsi que d'autres plus anciens portant des empreintes de petits crocs, ce qui provoqua ici et là plusieurs questionnements et débats houleux. Parmi les nombreux objets découverts figuraient des fragments épars de nombreux livres et documents, ainsi qu'une poussière jaunâtre témoignant de la désintégration totale d'œuvres encore plus anciennes. Tous les ouvrages, sans exception, semblaient porter sur les aspects les plus ignobles et les plus avancés de la magie noire, et de même que pour les eaux, la présence de certaines publications récentes jette encore aujourd'hui le trouble chez les scientifiques et les enquêteurs. Tout aussi mystérieuse était l'homogénéité absolue de l'écriture archaïque et ramassée identifiée sur un large éventail de manuscrits différents, dont la conservation et le filigrane permettent d'établir des écarts de datation d'au moins 150 à 200 ans. Pour certains, toutefois, la plus grande énigme reste cette incroyable profusion d'objets proprement inexplicables, des objets dont les formes, les matériaux, les modes de conception et d'utilisation défient l'analyse, qu'on retrouva parmi les gravats en plus ou moins bon état. L'un d'entre eux, qui suscita l'enthousiasme immédiat de plusieurs professeurs de l'université miskatonique, était une atrocité sérieusement endommagée et presque tout à fait similaire à la figurine offerte par Gilman au musée de l'université. Elle était toutefois plus grosse, taillée dans une pierre bleuâtre et non dans du métal, et posée sur un socle aux angles improbables, cornet d'indéchiffrables hiéroglyphes. Les archéologues, comme les anthropologues, s'efforcent encore d'expliquer les curieux motifs ciselés sur une coupe écrasée, dont le métal léger arborait au moment de sa découverte de sinistres taches brunes. Les étrangers et les grands-mères crédules sont pour leur part intarissables au sujet du crucifix en nickel de facture récente et encore attaché à une chaîne brisée qu'on retrouva dans les décombres et qui fut formellement identifié par un Joe Mazurevitch tremblant comme étant celui qu'il avait donné au pauvre Gilman bien des années plus tôt. Certains pensent qu'il fut monté par des rats dans le grenier condamné, d'autres qu'il n'avait jamais quitté la mansarde de l'étudiant, certainement abandonné dans un coin de la chambre. D'autres enfin, dont Joe lui-même, ont à ce sujet des théories si extravagantes et fantastiques qu'il est difficile de leur accorder le moindre crédit. Quand on abattit le mur oblique de la mansarde de Gilman, on trouva dans l'interstice triangulaire autrefois inaccessible entre la cloison et la façade nord, beaucoup moins de débris que dans le reste de la pièce, malgré la taille du réduit. Ce dernier était toutefois encombré d'un tas d'éléments qui figèrent d'horreur l'équipe de démolissage. En bref, le sol était un véritable charnier d'eau d'enfants en bas âge. Certains étaient récents, mais d'autres remontaient en d'infinies gradations jusqu'à des époques si reculées qu'ils tombaient presque entièrement en poussière. Sur cet épais tapis d'ossements, d'abord invisible sous le mince dépôt des boulis, gisait un poignard de grande taille, d'une évidente antiquité, et de conception exotique, grotesque et baroque. Au sein de ces déblais, coincés entre une planche effondrée et un amas de briques cimentées provenant des décombres de la cheminée en ruine, se trouvait un objet qui devait engendrer plus d'émoi, de terreurs voilées et de rumeurs superstitieuses à Arkham que tout ce qu'on avait pu découvrir dans les entrailles corrompues de cette maison hantée. Il s'agissait du squelette en partie broyé d'un rat gigantesque, souffrant à l'évidence de quelques pathologies, dont les malformations font toujours débat aujourd'hui et suscitent de bien étranges réticences parmi les membres du département d'anatomie comparée de l'université miskatonique. Peu d'informations ont filtré au sujet de ce squelette, mais certains des ouvriers qui l'ont exhumé décrivent à voix basse et tremblante les longs poils brunâtres qui y adhéraient encore. On raconte que la morphologie osseuse de ses pattes implique des facultés préhensiles évoquant plus un singe miniature qu'un rat. Son petit crâne pourvu de crocs jaunes et carnassiers, quant à lui, serait une aberration tératologique inégalée, tant il semble par certains côtés parodier de façon minuscule, monstrueuse et pervertie, un crâne humain. Et si les ouvriers terrifiés se signèrent vigoureusement quand ils découvrirent cette blasphématoire créature, Ils brûlèrent plus tard des cierges à l'église Saint-Stanislas pour remercier le ciel, car ils savaient au fond d'eux que plus jamais ils n'entendraient les échos stridents de ce ricanement spectral.